Donc là, on va, comme je vous le disais, on va parler un peu de ce que c'est que cet écoféminisme dont vous avez peut-être vaguement entendu parler, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça signifie au fond, qu'est-ce que ça a à voir avec l'écologie et le féminisme. Voilà, donc je vais passer la parole à Mathilde, qui a réfléchi à la question, et après à Lucie. Voilà. Et puis on conclura avec Monique. Et puis, on ouvrira les questions. Ça va aller. Allons-y. Mathilde. Écoféminisme.
Bon, alors je suis un peu stressée d'être investie de la responsabilité de vous expliquer l'écoféminisme, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et surtout, un terrain assez miné, donc je vous demande vraiment votre indulgence. Et il faut que je vous donne aussi un point d'attention. Je vais peut-être pas formuler très bien les choses, mais surtout, il faut pas que ça prête à confusion pour vous. Je défends absolument pas une vision essentialiste de la femme et du féminin. Donc, ce que je vais vous dire autour du féminin, moi, ce que j'entends par féminin, c'est un ensemble de caractéristiques qui sont traditionnellement et socialement associés aux femmes. Je ne dis pas du tout que les femmes sont toutes ces choses, ou qu'elles ne sont que toutes ces choses. Je dis que c'est une construction sociale et historique. Donc, ce point de précaution pris, je vais essayer de vous expliquer comment je vois l'écoféminisme. Non, j'étais trop concentrée sur mes propos parce que j'ai peur de me faire incendier à la sortie. Et puis je sais que c'est quelque chose d'assez sensible pour nous toutes, et peut-être en particulier pour les femmes un peu plus âgées qui ont vécu ça vraiment comme une contrainte, y compris sociale. Donc voilà, je tenais vraiment à le préciser. La façon dont je perçois l'écoféminisme, parce que l'écoféminisme, c'est une nébuleuse de courants qui correspondent aussi à plein de pratiques différentes. Et je vous conseille d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour en discuter avec vos filles et vos petites filles, de lire le livre de Jeanne Burgard-Goutal qui s'appelle « Être écoféministe, théorie et pratique », qui est un petit essai très bien fait par une philosophe qui est devenue prof de yoga à la suite de sa découverte de l'écoféminisme. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je perçois de l'écoféminisme, ce qui m'a en tout cas mise en mouvement, rejointe, et qui m'apporte pas mal, c'est l'idée que... Il y a deux choses, peut-être. L'idée d'abord que pour faire advenir une société, un monde, et du coup une église vraiment féministe, il ne suffit pas de... c'est une formule que j'aime bien, je la réutilise, de proposer aux femmes de devenir des hommes comme les autres, c'est-à-dire d'abandonner tout ce qui est féminin pour aller vers... Donc, quand je dis féminin, c'est-à-dire la maternité, le soin de l'intérieur, mais aussi une certaine qualité de relation, d'attention aux autres, d'oubli de soi, de... toutes ces choses de douceur, de tendresse, toutes ces choses qui sont souvent associées au féminin et qui sont dévalorisées parce qu'associées aux femmes depuis toujours. Donc pour faire advenir une société vraiment féministe, il ne suffit pas d'abandonner le féminin pour que tout le monde soit des hommes, ou soit au masculin et fasse une grande carrière en oubliant ses enfants à la maison et en achetant des plats surgelés tout près qui engraissent au passage l'industrie agroalimentaire. c'est de permettre à, c'est de réhabiliter le féminin dans la société et de permettre à, de permettre non seulement aux femmes d'être des hommes comme les autres, mais de proposer aux hommes d'être des femmes comme les autres. C'est-à-dire de, d'embrasser aussi ce côté féminin qui, pour nous, nous a été imposé, mais qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Le problème arrive quand les femmes sont assignées au féminin, à la douceur, et du coup à la soumission, et du coup à des carrières peu rémunératrices, et du coup, et du coup, et du coup. Mais en soi, franchement, être quelqu'un qui se soucie des autres et qui prend soin d'eux, parfois en s'oubliant lui-même, ou en mettant, disons, peut-être pas en s'oubliant, mais en mettant le bien de l'autre en premier dans sa vie, bon, ça me paraît assez chrétien, non ? Comme, comme façon de vivre. Alors, ça, c'est la, la première chose. Donc, c'est prendre conscience qu'en fait, il y a vraiment... au-delà d'une promotion sociale des femmes, qui est bien sûr nécessaire et indispensable, il y a vraiment aussi un besoin de promotion du féminin dans la société, dans la façon dont la société est construite. Et la deuxième chose, c'est l'association du féminin avec la nature. Alors, les écoféministes ne sont pas hyper claires sur le sujet parce qu'elles ne sont pas du tout d'accord entre elles. Mais en gros, donc elles savent pas. Enfin, suivant les personnes, elles disent qu'il y a un rapport d'analogie, ou alors un rapport de cause à effet, ou alors un rapport de coïncidence temporelle. En tout cas, le constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, les sociétés occidentales, en tout cas, capitalistes. Oppriment la nature comme elles oppriment les femmes, ou en même temps qu'elles oppriment les femmes, et que du coup la libération des femmes, la promotion du féminin va aussi avec une défense de la nature, des écosystèmes, du vivant. Et une société plus au féminin, c'est une société qui, au lieu de d'être dans une logique de domination, dans une logique de consommation par rapport au vivant, c'est une société qui est dans une logique de symbiose ou de... Alors les écoféministes aiment bien opposer le pouvoir et la puissance. Donc le pouvoir serait quelque chose de très vertical, un peu monarchique, un peu hiérarchique, et la puissance c'est plutôt un être avec, où on est... on se nourrit des forces l'un de l'autre. Et ça, je trouve ça... je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus ignorer l'urgence des problématiques climatiques. Et on peut se dire, bon, écoute, les femmes, c'est quand même quelque chose de très accessoire par rapport au climat, quoi. Et en fait, je trouve que ce que l'écoféminisme apporte, c'est de se dire, en fait, les deux vont ensemble. Et donc, dans nos démarches, nous, à Des Femmes et un Dieu, et c'est promis, j'arrête après, dans nos démarches à Des Femmes et un Dieu, on essaye de se placer dans cette lignée écoféministe. Et donc, de en fait, c'est à la fois donc, promouvoir vraiment quelque chose d'horizontal, alors j'ai parlé tout à l'heure avec certains d'entre vous d'empouvoirment, donc de montrer à l'autre qu'il est puissant et que c'est pas une compétition. Moi je suis puissante, Dominique est puissante, Monique est puissante, et tout ensemble on est beaucoup plus puissante. Donc, et la deuxième chose évidemment, c'est que du coup on essaye aussi de se placer dans ce nouveau rapport avec le monde qui nous entoure, avec le vivant, avec la nature, et ça passe pour nous par, bien sûr, des démarches écologiques, des petits trucs comme demander à tout le monde d'apporter son éco-cup ou sa serviette en tissu à nos retraites, mais aussi de cultiver une spiritualité de la terre, un peu ce dont parle le pape François, ce dont les jeunes aussi nous ont parlé, voilà, la contemplation du vivant, de la création, et de la conscience que spirituellement, on est tous liés les uns aux autres par notre statut de créature.
Merci Mathilde. Donc je me tourne vers Lucie et Anne. Vous avez entendu ce qu'a dit Mathilde. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, vous, de votre point de vue complémentaire ou autre? Je ne sais pas si Lucie, tu prends la parole et puis Anne après éventuellement. Lucie?
Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Super.
Ça marche, Lucie, c'est bon?
Ok. Très bien. Moi, je trouve qu'il y a. Je pense qu'on consonne avec plusieurs choses qu'a dit Mathilde. Je crois qu'il y a un lien très fort entre la question qu'on a abordée avant la pause, qui est celle des représentations de Dieu. L'idée n'est pas seulement de se décentrer de représentations androcentriques, donc de représentations masculines, mais de se décentrer, et c'est aussi un fondement de l'écoféminisme, de représentations anthropomorphiques de Dieu, c'est-à-dire de représentations de Dieu comme un être humain. Et en se décalant, et c'est ça le but aussi de filmiser, de dire Dieu.e, de parler de la roue, de la Shekina, c'est de se décaler de cette idée que Dieu est un non seulement un homme, mais un être humain, et que son désir pour notre vie, c'est une sorte de désir moral, d'aimer certaines personnes ou d'agir d'une certaine manière ou de ne pas se disputer avec son petit frère, comme on dit aux enfants au catéchisme. Son désir pour nous, c'est aussi un désir peut-être plus profond de vie et d'incarnation. Et du coup, les écoféministes disent plein de choses. Mais entre autres, elles disent que la structure patriarcale qui a produit le corpus théologique avec lequel on vit est marquée par l'idée platonicienne qu'il y a l'âme séparée du corps et de la matière, que quelque part l'âme vit en exil dans un monde de matière, et que chez Platon et chez Augustin, il y aurait cette représentation que, en gros, l'homme serait en quelque sorte la force intellectuelle et agissante, la tête du corps, et la femme serait plutôt du côté de la matière, du concret du corps. Donc, en gros, ce que, il me semble, mais je suis pas, c'est Anne qui va parler mieux de ça, mais il me semble qu'il y a chez les écoféministes cette idée que on vit avec des représentations qui sont non seulement patriarcales, mais qui sont quelque part dans une forme un peu de détestation de la matière, ou en tout cas de vision de l'être humain comme coupé de la matière, et que cette vision-là est en fait pas compatible avec le christianisme, qui est un christianisme d'incarnation. Et du coup, les écoféministes, donc il y a Rosemary Radford Rousseur, mais il y a aussi, elle parle notamment de Yvonne Guevara, elles ont une vision, par exemple, donc elles revisitent un peu les dogmes fondamentaux, de la Trinité, par exemple, comme pas seulement deux, quelque part, essences masculines qui seraient en contact à travers le Saint-Esprit, mais que la Trinité, elle vient nous parler de l'interdépendance profonde de tous les êtres vivants, qu'on est tous pris dans cette Trinité.
Lucie, et que l'incarnation de Christ, Lucie, pardon. Est-ce que tu peux parler juste plus lentement? Parce que tu dis des choses passionnantes, mais ça va tellement vite. Donc, on a besoin, tu vois,
de respiration.
Voilà. Juste plus lentement. Voilà, je me permets, parce que c'est dommage de ne pas tout capter.
Merci. Oui, t'as raison. Merci, Monique, c'est gentil. Oui, alors, du coup, il me semble, mais voilà, Anne est la théologienne, elle nous donnera quelque chose de peut-être plus solide là-dessus, mais il me semble que ce que nous proposent les théologiennes, et notamment l'écoféministe, c'est une forme de radicalisation de théologie féministe, mais aussi de la théologie queer, et qui est de dire non seulement Dieu n'est pas un homme, un être masculin, mais Dieu n'est pas être humain. Et que Dieu vient nous parler, dans sa représentation notamment trinitaire, de l'interdépendance de tous les êtres vivants, que quelque part on est tous englobés dans cette trinité relationnelle. Et que le Christ, en s'incarnant, vient quelque part lâcher quelque chose de cette représentation puissante de Dieu, mais aussi d'une représentation de, voilà, ce Dieu puissant qui agit le monde, qui organise le cosmos, d'où l'homme qui organise la structure sociale, qui puise les ressources de la terre, qui gère la vie sociale, serait une forme de répercussion, quoi. Et du coup, les écoféministes viennent nous parler autrement de Trinité, d'incarnation, de ce que c'est que le message du Christ, de ce que c'est que le pouvoir, et elles viennent nous mettre dans un rapport différent à notre vie corporelle, au vivant, à l'interdépendance du vivant, au fait que Dieu, s'il ne se dit pas comme un homme, c'est aussi parce qu'il est dans l'entrelacement des choses vivantes les unes avec les autres, des humains vivants, mais aussi de toute la matière de la vie. Et donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a un lien entre la destruction de la terre et la violence que l'on fait aux femmes. Il y a un lien entre les problématiques néolibérales et la vision patriarcale. En gros, c'est quelque part ces structures de domination. Le collectif Anastasis parle de structures de péché en reprenant un théologien de la libération, je ne sais plus lequel. Mais en gros, les théologiennes féministes disent qu'il y a un lien entre les structures qui oppriment les femmes, les structures qui abîment la terre et détruisent le vivant, et en accord avec le segment le plus révolutionnaire et le plus profond du christianisme. Je ne sais pas si j'ai... Voilà, je pense que j'ai été claire. J'espère.
C'est vraiment une super explication, Lucie. Donc, j'ai pas vraiment... Enfin, j'ai peut-être deux petites choses à ajouter, simplement pour donner un contexte. C'est que l'éco-spiritualité féministe, elle date pas vraiment d'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que ça existe, et un des ouvrages marquants, c'est celui de Rosemary Redford Ruther, qui a été publié en 1992 et qui s'appelle Gaia and God. Et donc, ce qu'elle décrit, enfin, ce qu'elle explique, c'est ce que vient de vous expliquer Lucie extrêmement bien. Et ce que je voulais simplement ajouter, c'était que ça vous paraît peut-être pas très novateur, dans le sens où vous l'avez peut-être déjà lu dans Laudato Si, dans l'encyclique du pape François. Et pourtant, si vous regardez cette encyclique, à aucun moment le pape ne cite de théologienne et écoféministe. Il n'y a aucune référence faite à ces théologiennes qui ont fait ce travail il y a plus de 30 ans. Voilà, donc c'est une autre manière d'invisibiliser encore ce travail que des théologiennes ont fait depuis des décennies et qui sont jamais mises en valeur par les papes qui, en fait, piochent dans la réflexion de ces femmes et qui les utilisent pour les encycliques, mais qui n'en vont jamais en fait rendre à ces théologiennes la puissance de leur pensée. Ça, c'est un premier élément que je voulais ajouter. Et le deuxième, c'est souvent le pape François, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, cite beaucoup les théologiens de la libération. Et pourtant, il ne cite jamais une des plus grandes théologiennes de la libération qui a aussi travaillé sur ce lien entre le saccage de l'environnement et la domination qui est faite vis-à-vis des femmes et des personnes LGBT, et c'est la théologienne Marcella Altos Reid. Et c'est assez étonnant de voir à quel point la pensée du pape François est comme en partie liée à ces réflexions-là, mais jamais il ne va mentionner ou va reconnaître le fait qu'il doit ces réflexions à Marcella Altos Reid, à Rosemary Redford Ruther et à toutes ces théologiennes qui ont pensé cela il y a déjà des années. Et ça me permet juste de faire un dernier point qui est que Mathilde a mis en valeur, en fait, c'est que lorsqu'on parle d'éco-théologie féministe, il y a une grande variété de choses. Et une des choses qui est utilisée beaucoup par le pape François et par une génération de catholiques engagés en politique ou de plus en plus aujourd'hui, mais qui ne prend pas en compte la dimension d'oppression des femmes et des personnes LGBT. Et du coup, qui va réutiliser le féminin pour l'essentialiser et pour rester dans un type de réflexion qui est lié à la loi naturelle, comme si le fait d'observation de faits dans la nature devrait prescrire la manière dont on devrait distribuer les rôles dans la société, organiser le monde et les institutions. Donc, je dis ça simplement pour inviter à une certaine précaution lorsque vous abordez des personnes qui vous parlent ou des livres qui vous parlent d'écologie, d'éco-théologie féministe, c'est qu'il y en a une grande variété, et souvent celle qui est utilisée par les représentants de l'institution de l'Église, c'est souvent une éco-théologie qui continue à être oppressive des femmes et des minorités sexuelles.